Le chef des œuvres de La fontaine inépuisable de vie. Dimanche 17 avril 2005. Rêve. Brian Kozurek. Ce matin, nous allons continuer de là où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier concernant le message de Frère Branham sur le chef-d'œuvre. La semaine dernière, nous avons commencé notre étude de ce sermon en étudiant la prière de Frère Branham alors qu'il commençait ce sermon. Dans son sermon, le chef-d'œuvre 05.07-64pp de Frère Branham commençait sa prière en disant, « Seigneur Jésus, toi la fontaine inépuisable de vie. » Et ensuite il a continué avec sa prière. Maintenant, ce matin, nous voulons continuer notre étude de cette pensée sur cette fontaine inépuisable de vie. La semaine dernière, nous avons commencé cette série en examinant cette grande fontaine de la vie et nous sommes repartis au commencement dans Genèse 1, où nous avons lu, au commencement Dieu. Et nous savons que le mot Dieu ici a été pris du mot hébreu Elohim, qui veut dire celui qui auto-existe. Ainsi, nous voyons alors qu'il y avait un temps que Dieu demeurait tout seul. En fait, pour une éternité dans le passé, Dieu demeurait seul dans une existence solitaire. Mais en Dieu était une grande fontaine de vie. Car Dieu est la vie. Et en fait, comme Frère Branham a montré ici, cette grande fontaine de vie est inépuisable. Par conséquent, avant d'aller plus loin, permettez que je parle de ce mot inépuisable. Que veut-il dire? Et pourquoi a-t-il utilisé ce mot pour décrire cette grande fontaine de vie? Webster nous dit que le mot inépuisable signifie « ce qui n'est mis peut pas être épuisé ». Plus explicitement, « ce qui n'est mis peut pas tarir ou être vidé ». « ce qui n'est mis peut pas être fatigué ». Maintenant, cela me rappelle ce que Frère Branham voulait dire concernant le fait de demander à Dieu beaucoup trop d'aide. Il devait passer par ce chemin 27.07-57p, 7 pourrait vous imaginer. J'ai eu des gens qui m'ont dit, « Frère Branham, je voudrais demander que Dieu me guérisse, mais je sais qu'il est occupé. » Oh! Là! Là! Pourrez-vous imaginer un petit poisson de cette longueur-là? Au milieu de l'océan Atlantique dire, il serait mieux que je boive de cette eau avec modération. Je pourrais en manquer un jour. Abacuc, abacuc, abacuc. C'est Esther de même intelligent de penser que vous pourriez jamais épuiser la bonté de Dieu pour vous. Pouvez-vous imaginer une petite souris d'environ cette longueur-là sous les grands greniers de l'Égypte dire, il serait mieux que je mange de grains par jour. Ça peut n'aimer pas durer pendant l'hiver. Oh! Là, là! Vous n'y pouvez pas. Il veut que vous demandiez abondamment. Afin que votre joie puisse être comble. N'y craignez pas de demander, quoi que ce soit à Dieu. Car il est disposé. Plus disposé de le donner. Ensuite vous le recevez. Si nous ôtons simplement cette ombre pour savoir qu'il est disposé à le faire. Vous êtes ses enfants. Il vous aime et il. Vous savez comment vous aimez secourir et faire de bonnes choses à vos enfants? Combien? Cette trace même de la paternité? Des parents à vos enfants vient de Dieu, c'est juste. Parce qu'il est le Père de nous tous. Il nous aime. Et il veut faire pour nous. S'il peut nous aligner avec les bénédictions et ainsi de suite. Il peut avoir confiance en nous. Alors il n'y a que le ciel est vers à nous tous. Maintenant, c'est la clé et remarquez comment Frère Branham a lié ceci dans la paternité de Dieu. Il a dit, cette trace même de la paternité, de parents à vos enfants vient de Dieu, c'est juste. Parce qu'il est le Père de nous tous. Il nous aime, et il veut faire pour nous. Maintenant, c'est ce sur quoi j'aimerais parler ce matin. Frère Branham l'a appelé la race même de la paternité, qui était en Dieu pour commencer et elle est descendue à nous. Or, Nous savons tous maintenant qu'une race estère, quelque chose qui est estère divisé correctement ou élevé sélectivement, jusqu'à ce que ce soit dans sa forme la plus pure. Le dictionnaire définit le mot anglais estrin comme un verbe qui signifie, ôter ou supprimer par filtration. Mais quand nous l'utilisons comme un nom, nous parlons d'engendrer, de la race, de la lignée, ou d'espèce. Ainsi, ce mot parle d'une ligne d'individus d'une certaine espèce ou race, qui sont différenciés du groupe principal par certaines qualités généralement supérieures comme le résultat de la reproduction sélective. Ainsi, quand frère Branham nous dit, cette race même de la paternité, des parents à vos enfants vient de Dieu, c'est Esther juste. Parce qu'il est Esther le père de nous tous, il nous dit que Dieu a accordé sa vie à certains individus, qui n'aimi servent à rien si ce n'est Esther de manifester ses attributs. Alors, ce matin, je voudrais étudier ce processus par lequel Dieu nous a enseigné de diviser correctement sa parole. Parce que si la parole n'Esther pas correctement divisée, la vie qu'Esther, dans cette parole Néhémie, ne produira pas les résultats qu'elle était destinée produire. Ainsi, nous regardons à cette fontaine inépuisable de vie, et par conséquent, nous savons que toute la vie d'Esther venue de Dieu, et la seule source de la vie éternelle, était en Dieu pour commencer. La semaine dernière, nous avons trouvé dans Jean 5:26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et nous avons vu que David a décrit Dieu comme la fontaine de vie, psaume 36, 9, 36, 10, car auprès de toi Esther la source ou la fontaine, trad, de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Et nous avons trouvé William Branham nous dire dans sa série des sermons sur les Hébreux, 21-129 Hébreux 21.08-57 que cette grande fontaine de l'Esprit, qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand Esprit a commencé à se former dans la création, et le logo qui Esther sortit d'elle, était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui veut dire un corps et le corps était comme un homme. Maintenant, nous savons que dans Genèse 1:11 on nous a donné la loi de la reproduction, qui dit que chaque semence se reproduira selon son espèce ou sa nature. Et ensuite, dans certains versets plus tard, nous trouvons Dieu qui dit au Fils de Dieu, faisons l'homme à notre image. Ainsi, nous voyons que l'homme fut un être esprit. Mais Dieu n'a pas eu l'intention que l'homme reste un être esprit. Ainsi, dans Genèse 2 nous voyons Dieu, qui revêt l'homme de la poussière de la terre, et ensuite, Dieu fait quelque chose à ce corps pour le vivifier. Il nous a dit, Genèse 2, cet éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, je veux que vous remarquiez que quand Dieu a soufflé dans Adam, il a soufflé en lui le souffle de vie. Maintenant, l'original Néhémie dit pas de vie comme dans seule vie. Mais c'était donné sous la forme masculine plurielle qui parle des vies. Autrement, la vie aurait cessé d'être après Adam. Mais en fait Dieu a placé dans Adam toutes les vies qu'il avait l'intention de produire dans son image. Ainsi vous voyez, Dieu était la grande fontaine de vie ou des vies, et nous étions en lui avant même qu'il ait créé le monde. Nous étions en lui sous forme de semence, dans laquelle nous étions des attributs de sa pensée. Éphésiens 1, 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ainsi, nous voyons que nous étions premièrement en Dieu, et ensuite quand Dieu a soufflé dans Adam le souffle de vie, et en lui était maintenant la semence de chaque fils ou fille de Dieu, qui sera jamais manifestée. 1 Corinthiens 15h45 Sester pourquoi Esther écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam Esther est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est Esther spirituel n'Esther pas le premier. Sester ce qui est Esther animal. Ce qui est Esther spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, Esther terrestre. Le second homme Esther du ciel. 48 Tel Esther le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel Esther le céleste. Tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, remarquez que la vie que Dieu a placée dans Adam et Ève peut venir que par une division correcte des cellules dans ce germe de la semence. Chaque semence quand elle commence à se reproduire, doit diviser ses cellules et ensuite pendant que ces cellules se divisent, elle commence à se multiplier. Genèse 5, 1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Maintenant, le mot hébreu pour génération Esther un mot qui parle de la lignée, ou la généalogie. Ainsi, les générations d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Deux il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Trois Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Maintenant, Adam avait en lui le souffle des vies, et quand il engendra Seth, ce souffle des vies Esther allait dans Seth. Or, remarquez qu'Adam engendra d'autres enfants après Seth mais rien n'Esther dit à leur sujet dans la grande lignée. Genèse 5, 4 Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Ensuite, Seth avait la lignée de Dieu en lui, et comme il a commencé à produire la lignée de la semence Dieu, il engendra Enoch, et en Enoch était le souffle de vie. Genèse 5, 7 Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et ensuite Enoch engendra Kénan et Kénan engendra Mahalalel. Et Mahalalel engendra Jéred. Et Enoch et nous pourrions suivre cette lignée du souffle de vie tout le long jusqu'à Jésus-Christ si nous ouvrions au livre de Matthieu où on nous a donné cette lignée du souffle de vie de Dieu. D'Abraham jusqu'à Jésus. Maintenant, en revenant au commencement, nous comprenons que le serpent a injecté sa propre vie dans le ruisseau de la vie de Dieu, lequel Esther appelait le fleuve de vie qui avait commencé à couler du trône de Dieu pour descendre à travers Adam et dans la lignée des fils. Mais remarquez que pendant les jours de Noé, cette espèce ou la race de Dieu avait été interrompue et maintenant, l'espèce de vie avait été polluée. Et le livre de la nuée Esther maintenant devenu le livre de vie. Maintenant, nous parlons toujours de cette fontaine inépuisable de vie. Mais je veux que vous voyez la manière que cette fontaine était en Dieu. Puis, elle fut placée dans Adam comme une économie. Et ensuite dans Seth et ainsi, elle Esther descendue à travers les générations au cours du temps comme nous le savons, jusqu'à ce que notre Sauveur béni soit venu sur la scène. Maintenant, remarquez qu'il Esther venu un temps où le ruisseau pur de la vie de Néhémie coulait plus, et ainsi nous avons vu qu'un certain développement a commencé à prendre place. De la même fontaine Esther venue de l'eau amère et de l'eau douce. Des mêmes reins sont sortis un Jacob qui aimait la parole de Dieu et Esaü qui Néhémie s'en souciait pas. Il a été ordonné à Israël de Néhémie pas se marier avec les incroyants de peur qu'il Néhémie pollue la semence d'Israël. Quand ils ont fait ainsi, ils ont été chassés hors de l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Dans le message il n'en était pas ainsi au commencement 11.04-61p, 50 frères Branham a dit, dans l'Ancien Testament un enfant qui était hybride, né hors des liens sacrés du mariage, Néhémie pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations, prendre 10 générations pour l'élever dehors. S'Esther 400 années pour élever dehors un enfant illégitime. Néhémie pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. L'hybridation, une femme qui a fait un vœu à son mari et qui vit avec un autre homme et a eu un bébé par lui, une chose horrible. Maintenant, vous pouvez penser dans votre cœur, et qu'Esther ce cela a à voir avec nous en ce jour-ci? Eh bien, voici ce que j'essaie de dire ce matin, on a confié à ces hommes la semence de Dieu comme dans chaque génération passée à une autre. La semence de Dieu de chaque enfant de Dieu, qui était jamais né, fut placée en Adam par Dieu lui-même, quand il a soufflé en lui le souffle de vie. Alors, quand Adam a placé cette semence dans le terrain de sa femme Ève, la vie de Esther passée de lui dans la postérité, qui est Esther venue de lui, laquelle était Seth. Maintenant cette Esther devenue l'administrateur de la race de la vie Dieu. Ensuite de lui, elle Esther passée sur Enoch et a continué à travers les âges d'un fils de Dieu à un autre. Nous pouvons voir la manière qu'on a confié cette semence Dieu à chaque fils de Dieu et cependant, nous avons aussi vu que les autres étaient aussi issus de ces mêmes hommes et pendant que certains de nos descendants ont manifesté des vrais attributs de la vie Dieu, d'autres cependant issus du même vase à qui on avait confié cette vie Dieu, sont venus et n'ont pas manifesté les attributs de la vie Dieu. Maintenant, Jésus nous a dit dans Matthieu 13 que le Fils de l'homme Esther sortit semant la semence, et nous savons que ces semences sont appelées les enfants de l'obéissance et ils sont aussi appelés les enfants du royaume. Nous savons que ce sont la postérité de Dieu ou les enfants de Dieu. Dans Marc 4, on nous a dit par Jésus que la bonne semence qui a été semée c'est Esther la parole de Dieu. Maintenant, je veux que vous compreniez que ces enfants étaient le souffle Dieu et donc la race Dieu, qui est Esther venue et Esther descendue de la grande fontaine de vie. Les noms blasphématoires 04.11-62 MP, 83 l'Église Esther le corps mystique de Christ, né du souffle de Dieu. L'avez-vous compris? L'Église de Dieu Esther née du souffle de Dieu. Dieu a soufflé le souffle dans les narines, spirituellement, d'Adam, et il est Esther devenue une âme vivante. Connaissez-vous la Pentecôte, ou que la vraie église de la Pentecôte est Esther née du souffle de Dieu? Permettez que je vous lise quelque chose juste un instant, juste sur cela. Permettez que je vois juste un instant. Saint Jean, je crois. C'est Esther là où je vais. Et nous allons découvrir si l'église de Dieu est Esther ou pas. Saint Jean. Voyons. Je crois que c'est Esther vers 16. 19. 20. Très bien. Ici. Je crois que nous l'aurons bien ici. Très bien. Permettez que je vous lise et voyez si l'église est Esther née du souffle de Dieu ou pas. Comme Adam était au commencement. Observez. Et le même jour le soir, étant le premier jour de la semaine, quand les portes ont été fermées et les disciples se sont assemblés à cause de la peur des Juifs, Jésus Esther venu et s'Esther mis debout au milieu d'eux, et leur a dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il avait dit ainsi, il leur a montré ses mains et son côté. Était. Alors les disciples étaient contents, quand ils ont vu le Seigneur, et ensuite, Jésus leur a encore dit, « La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé. Ainsi, je vous envoie. » Observez. Le Père qui l'a envoyé est à rentrer en lui. Et Jésus, quand il envoie un disciple, il entre en lui. La même personne envoyée. Et quand il avait dit ceci, il a soufflé sur eux, et a dit, « Recevez le Saint-Esprit, l'Église est née du souffle de Dieu. » Écoutez le 30.09-56p, 14 maintenant. Quand un homme est inspiré et qu'il lit la parole inspirée, Les deux inspirations ensemble donnent un résultat. Maintenant, vous pouvez jamais. Peu importe comment vous étudiez bien la parole, elle n'est mise vous fera jamais aucun bien jusqu'à vous soyez inspiré vous-même. Il faut votre inspiration avec la parole Esther déjà inspirée. Ainsi, ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est Esther une inspiration sur nous. Dieu descend avec une nouvelle inspiration et souffle sur nous sa puissance et son amour et lui-même. Que ça puisse nous inspirer de nous ramener à la vie et nous réveiller à ses paroles. Et ensuite, la parole étant apportée dans cet esprit d'inspiration, alors vous verrez des miracles arriver, et les choses prendre place, parce que les deux s'unissent simplement. Paul nous a dit dans 2 Timothée 3:16 que la parole de Dieu Esther le souffle de Dieu. Il a dit, toute écriture Esther inspirée de Dieu, ce mot inspiration vient du mot inspiré qui signifie souffler et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3:16 toute écriture Esther inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, nous avons aussi vu qu'un autre Esther sortit semant un genre différent de la semence, et il Esther appelé l'ennemi, lequel nous savons que c'est Esther Satan, et il Esther sortit semant aussi la semence, et sa semence qu'il a semé Esther sa progéniture, et ils sont connus comme les enfants de la désobéissance. Maintenant, voici ce que je poursuis ce matin, le souffle des vies Esther la parole de Dieu. On nous a donné un ministère de cette parole. Quand nous revenons à la grande fontaine, tout était des pensées de Dieu et quand ces pensées ont commencé à s'exprimer, elles se sont exprimées en tant que parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et Jésus nous a dit que ces paroles étaient esprit et vie. Jean les a appelées la parole de vie dans 1 Jean 1, et non de Pierre 1. 3 On nous a dit que sa parole divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à travers ses connaissances à lui. Ainsi, nous voyons qu'on nous a confié la semence même de Dieu, et comme un bon administrateur ou économe, nous devons la diviser correctement ou alors elle n'est mise, produira pas la vie qu'elle est destinée produire. Alors, comme on vous a enseigné, quand vous avez le mot Christ qui est utilisé dans une phrase, vous devez premièrement regarder le contexte dans lequel il est utilisé avant que vous déterminiez quel usage de ce mot sera placé dans votre pensée. Si le contexte parle du Père, alors nous voyons Christ comme celui qui oint. S'il se reporte au Fils de Dieu, ou à d'autres qui sont des récipients de l'onction, alors nous regardons le mot Christ comme loin ou celui qui est loin. Et s'il parle de l'onction, alors nous le voyons simplement comme l'onction qui vient de celui qui oint vers loin. La version des 70 nous dit que quand Caïn est devenu en colère parce que Dieu avait rejeté son sacrifice, Dieu lui a dit, tu as bien offert, mais tu n'as pas divisé correctement et ainsi, à cause d'une division erronée, le serpent fut capable de séduire Ève et ainsi, il a injecté une mauvaise vie dans le ruisseau de vie. Avec une division erronée de la parole, vous faites de Jésus la parole dans Jean 1, 1 et alors vous avez de Dieu. Frère Branham a dit, Christ Esther révèle dans sa propre parole, 08.22-65-74 Malachi interprète Jésus-Christ comme étant la parole, vous ferez de lui un Dieu sur trois, ou vous le ferez la deuxième personne dans la divinité. Maintenant, nous savons que le mot « Malachi interprété » signifie « interprété incorrectement ». Ainsi, interprété incorrectement que Jésus-Christ Esther la parole, ferait de lui un autre Dieu. Nous avons un prophète de Dieu confirmé en cette heure-ci, qui a très clairement défini la divinité pour nous. Il a dit que Dieu et Jésus-Néhémie sont pas un comme votre doigt Esther 1. Il nous a dit que Jésus et Dieu étaient un parce que la parole de Dieu demeurait dans Jésus et Dieu lui-même était en lui. Il nous a dit que le corps n'était pas la divinité, mais la divinité a habité dans le corps. Il nous a dit que Jésus était un être double. Il nous a dit qu'il y avait une différence entre le Père et le Fils. Il nous a dit que Dieu est rentré dans Jésus au fleuve Jourdain et l'a quitté à Gethsemane. Maintenant, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une différence. Jean a dit que celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et ensuite il nous a dit ce qu'était la doctrine de Christ. Jean nous a dit dans 2 Jean 8, 2 Jean 9, trad. Que pour avoir la doctrine de Christ, vous devez avoir le Père et le Fils. Et il a dit si quelqu'un vient à vous et qu'il n'a pas cette doctrine, Néhémie le recevait même pas. Maintenant ce sont des paroles dures. Mais, nous devons nous demander alors, pourquoi a-t-il parlé avec une telle autorité concernant cette doctrine de Christ? Dans 2 Corinthiens 11 et Galates, Paul s'était inquiété de l'église primitive, parce qu'ils écoutaient ceux qui prêchaient un autre Jésus, lequel il a dit n'était pas un autre, bien qu'il prêchait au sujet d'un autre homme appelé Jésus. Mais ce qu'il prêchait était une compréhension pervertie du vrai Jésus et ainsi, les gens recevaient un autre esprit, qui n'était pas le Saint-Esprit. Mais, c'était un esprit impie. Et à moins que vous compreniez la doctrine, vous n'émidiviserez pas correctement la parole de vérité. Et si vous n'émidivisez pas correctement la parole de vérité, alors elle devient une parole tordue et elle produira un esprit d'une autre nature. Et si vous laissez vos enfants écouter ce genre d'esprit, alors quel genre d'administrateur du souffle de vie êtes-vous? Il a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous et alors je serai votre Dieu et un Père pour vous. Écoutez, à cause de tout le travail de traduction avec lequel je suis impliqué, j'ai trouvé que quand vous avez un mot, il y a souvent plusieurs mots applicables qui peuvent être utilisés au cours de la traduction. Si je dis, voyez-vous ce que je suis en train de dire? Le mot voir a beaucoup de contextes différents dans lesquels il peut être utilisé. Le mot voir peut être utilisé pour parler de regarder physiquement avec vos yeux, ou il peut être utilisé comme une forme de perception ou de la compréhension de la pensée. Mais pour diviser correctement la parole, vous devez être capable de voir dans quel contexte le mot est utilisé et ainsi savoir quel mot utiliser pour comprendre cette pensée. Maintenant, qu'en est-il si vous, Néhémie, comprenez pas la doctrine? Alors votre traduction Néhémie sera pas correcte. Elle pourrait être proche par pure coïncidence, mais ça sera bien sur l'argent. Il faut une compréhension de ce qui Esther dit. Si Esther pourquoi si je dis, voyez-vous ce que je veux dire? Quelqu'un pourrait traduire cela comme comprenez-vous dans votre pensée ce que je suis en train de dire? Eh bien qu'il puisse utiliser un mot tout à fait différent. Cependant ils disent on fait des pensées correctes ou la même chose trad. Qu'en est-il si je disais, voyez-vous les mers? Vous devez traduire cela comme voir la mer avec les yeux. De toute façon, à moins que vous compreniez la doctrine et le contexte dans lequel le mot est utilisé, essayez de prendre une écriture et la lire simplement comme un livre, peut vous enlever complètement de la ligne droite et étroite, et vous pourriez facilement attraper un esprit en le faisant. Il y a une semaine, nous avons eu une discussion sur Hébreux 1. 8 qui dit, 8 mélodies au Fils, ton trône, ô Dieu Esther éternel, le sceptre de ton règne Esther un sceptre d'équité, 9 tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, si Esther pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Maintenant, si vous n'aimez comprenez pas la doctrine de Christ, vous ferez la même erreur que les hommes qui ont traduit ce verset de l'Écriture à partir des manuscrits originaux. Maintenant, Vous devez comprendre que les hommes qui ont écrit les différentes traductions faisaient juste cela. Ils traduisaient ce que l'original avait dit. Mais pour traduire correctement, nous devons comprendre la doctrine et pour faire ainsi infailliblement, nous devons avoir l'ainsi dit le Seigneur d'un prophète confirmé. C'est-à-dire pourquoi peu importe quelle traduction vous avez, il y a ce qui paraît être des erreurs apparentes. Et certaines traductions n'ont plus que les autres. Mais quand vous revenez à la compréhension originale, il n'y a pas d'erreur là. Maintenant, cela signifie que nous devrions jeter nos traductions et dire ensuite qui en a besoin? Non, en aucune façon. Mais c'est-à-dire pourquoi nous avons besoin qu'un prophète confirmé soit envoyé par Dieu pour redresser le désordre. Maintenant, prenons Hébreux 1, 8 pour notre exemple. La version du roi Jacques dit, Hébreux 1, 8 mais au fils, il dit, et à moins que vous compreniez la doctrine de Christ, vous n'y saurez pas qui dit quoi. En fait, dans plusieurs autres traductions, on n'utilise même pas les mots « il dit » parce qu'Onéhémie ne les a pas trouvés dans l'original bien qu'ils soient insinués. Ainsi, en lisant à partir de la version du roi Jacques, nous lisons « Huit mais l'a dit au Fils, ton trône, ô Dieu Esther éternel, le sceptre de ton règne Esther un sceptre d'équité. 9 tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est-à-dire pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Maintenant, ça paraîtrait au lecteur informel que Dieu parle au Fils de Dieu et l'appelle Dieu, mais ensuite nous trouvons au verset 9 que l'autre Esther Dieu. Alors, lequel Esther Dieu? Voyez-vous comment la traduction, qui n'Esther pas conforme à la doctrine de Christ, peut déformer la lecture? Maintenant, l'écriture Néhémie combat pas l'écriture si c'est-à-dire en effet Dieu qui a soufflé. Mais cela Néhémie dit pas que les interprétations des hommes Néhémie peuvent pas être ôtées ici et là. Ainsi, l'écriture entière vous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et cependant cette lecture apparente vous ferait penser qu'il y a plus qu'un. Car elle se lit comme si un Dieu parle à un autre Dieu. En fait, il y a plusieurs traductions qui effectivement disent juste cela. La version anglaise contemporaine dit Hébreux 1, 8 mais Dieu dit au sujet de son fils, tu es aïe Dieu, et tu régneras comme roi éternellement. Et aussi nous voyons l'anglais universel, la traduction du Nouveau Testament dit, mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu Esther éternel, le sceptre de ton règne Esther un sceptre d'équité. Maintenant, le problème avec la plupart des traductions Esther, qu'on a utilisé les traductions antérieures pour traduire à partir de cela et on a utilisé seulement l'original comme un dictionnaire. Et sur cela, toutes les traductions ont été faites par les trinitaires, et aucune traduction des écritures originales n'a été faite jusqu'à ce que les hommes se soient creusés à fond et tranchés dans la doctrine de la Trinité. Ainsi, s'il vous plaît Néhémie me dites pas que votre compréhension Néhémie joue pas de beaucoup dans la manière que vous traduisez. Elle a tout un rapport avec votre capacité de traduire correctement. Maintenant, le problème avec cette écriture que nous utilisons pour notre exemple est que le mot qui a été traduit dans la version du roi Jacques a été traduit du mot grec pyromicron sigma. Pro, lequel a été utilisé 73 fois dans les écritures et à 21 mots anglais équivalents différents qui ont été utilisés par les traducteurs. La plupart des mots souvent traduits ont été le mot contre, qui a été utilisé 21 fois différentes. Ensuite le mot avant a été utilisé 9 fois et le mot vers a été 9 fois utilisé et puis après que les autres 18 ont été également assez utilisés. Nas usage des mots total, 73. Au sujet de 1. Accordé 1. Selon 1. À travers 1. Contre 21. Parmi 5. Autour 2. Parce. Que 2. Avant 9. À côté 1. Terminé 1. Proche 4. Commander 1. Se rapporter 4. Promouvoir 1. Considérer 1. Ainsi 5. Terme 1. Ensemble astérisque 1. Vers 9. Chuchote astérisque 1. Le problème est que les principaux trois mots équivalents qui sont utilisés par les dictionnaires de la Bible sont A, ou O, trad. Selon. Et au sujet de. Mais le mot grec pro, esther une préposition, qui indique la direction, en grammaire. Une préposition esther un mot habituellement placé devant un autre pour exprimer une relation ou une qualité. L'action ou le mouvement vers ou à partir de la chose spécifiée. Dans ce cas, le mot grec pro esther, traduit dans l'écriture comme les mots suivants, au sujet de. Selon. Contre. Parmi. À cause de. Avant. Entre. Mais les principales traductions des dictionnaires grecs anciens l'utilisent pour se référer à l'espace ou au temps, mais pour se référer à un autre être. Le mot utilisé esther selon. Maintenant pour expliquer ce que je veux dire en étant capable d'utiliser le mot correct dans le bon contexte, insérons simplement les trois principaux mots donnés par le dictionnaire de la Bible. Essayons celui que le roi Jacques a utilisé. Mais au fils il dit. Maintenant, ceci montre la direction vers l'office, et amène à penser que quelqu'un va dire quelque chose au sujet du fils. Or, la nouvelle version internationale, NIF, et plusieurs autres traductions utilisent le mot au sujet de au lieu de haut. Mais au sujet du fils il dit. Encore une fois, nous voyons que la direction esther vers le fils comme si quelqu'un va dire quelque chose au sujet du fils. Et dans les deux cas nous savons que celui qui parle s'ester Dieu ainsi. Nous trouvons Dieu qui appelle le fils de Dieu. Dieu. Faisant de Dieu. Mais maintenant prenons le troisième, qui amène l'usage du mot et insérez-le dans la même équation. Mais selon le fils il dit. Maintenant, l'insertion de ces mots fait que la phrase s'ajuste parfaitement avec le reste de la Bible entière, et nous nous attendons maintenant à entendre ce que le fils doit dire. Car si je dis selon Ron il dit, je n'ai mis dit pas, selon Ron et ensuite dit à ce que Miguel dit. Si je dis, ainsi dit le Seigneur, alors je dois mieux dire ce que le Seigneur a déjà dit. Sinon je serai coupable d'injecter mes propres paroles dans la bouche du Seigneur, en faisant de lui un menteur, parce qu'il n'a aimé l'a pas dit. Et puis, effectivement nous Néhémie, pouvons pas faire de Dieu un menteur, mais ce qui dirait ainsi dit le Seigneur alors que le Seigneur Néhémie l'a pas dit, montre simplement qu'ils sont eux-mêmes des menteurs. Ainsi j'espère que vous pouvez voir l'importance de connaître la doctrine de Christ, et j'espère que vous pouvez voir comment il est facile de produire une compréhension totalement erronée simplement en Néhémie comprenant pas le contexte de l'écriture. Et comme Paul a averti, une parole erronée peut amener de faux résultats et un mauvais esprit. Grâce Fellowship Tabernacle. Mai 2008. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet à briancocourec@yahoo.com.